Phase 2. Sous les pavés, Nicole Duparc.
Bienvenue. L'histoire débute comme un conte de fées. Il était une fois un petit garçon nommé Aaron Schwartz qui ne ressemblait à rien de connu. À 3 ans, il savait lire. À 8 ans, la programmation informatique n'avait plus de secret pour lui. Et à 14 ans, il abandonnait carrément l'école pour travailler avec l'inventeur du web. Rien de moins. Mais le conte de fées va virer au noir. Le petit prince du code ne fut pas heureux et il n'eut pas d'enfant. Pionnier de l'Internet libre, Aaron Schwartz s'est suicidé à l'âge de 26 ans. C'était le 13 janvier 2013. Pour échapper à son procès pour vol de documents publics intenté par l'administration Obama. Cette histoire qui vire au noir, c'est celle que déplie notre invité dans un livre enquête qui se lit comme une lettre d'amour, une lettre envoyée à un amoureux qu'on ne connaîtra jamais mais qui nous a tant fait rêver. Bonjour Flore Vasseur.
Bonjour.
Vous publiez donc « Ce qu'il reste de nos rêves ». Alors c'est à la fois une enquête, une quête, j'allais dire, une lettre d'amour.
Oui, certainement, c'est vraiment remarquable de démarrer par cela, parce que c'était pas le but. Vous savez, quand on écrit, on sait jamais exactement où on va, et c'est ça l'aventure. Il faut quitter le port et s'aventurer dans cet océan d'inconnu. Et c'est vrai que je pense qu'au-delà de l'analyse politique qui est faite à travers ce livre sur l'emprise de la technologie sur nos vies, au-delà de l'enquête policière sur pourquoi un homme qui est désintéressé, libre, qui veut défendre l'intérêt général, qui est intelligent, qui est connu, qui a des connexions énormes partout, pourquoi est-ce que quelqu'un comme cela est arrêté aujourd'hui ? Stoppé dans sa quête et dans son action par la première démocratie au monde, à savoir les États-Unis. Ça m'a quand même beaucoup interpellée. Donc, il y a beaucoup de fils avec lesquels j'ai dû tresser ce livre. Et certainement que l'histoire d'amour pour un fantôme est, pour moi, l'élément, bien sûr, le plus tendre et le plus surprenant.
Vous avez réalisé un documentaire sur Snowden, Meeting Snowden. Edgar Snowden, Aaron Schwartz, c'est un peu le même combat.
Je pense vraiment qu'il y a une filiation très très forte entre les deux personnages. Alors il y en a un qui est très connu parce qu'il a fait un acte fracassant et très sacrificiel et il a mis son corps sur la route et tout le monde l'a vu. Donc c'est Edward Snowden. Mais il l'a fait 6 mois après qu'Aaron se soit suicidé. C'est le même genre de personnage. Il y a vraiment des caractéristiques communes, une très très grande intelligence, une très grande humilité, un grand grand désir de bien faire. Vous savez, c'est aussi ces personnages américains qui sont élevés dans l'idée qu'on peut avoir des destins bigger than life. Vous savez, c'est ces personnages-là.
Plus grand que la vie.
Plus grand que la vie, plus grand que soi. Et je pense que Edward Snowden et Aaron Schwartz partagent cela. Donc l'intelligence, le désintéressement pour soi-même, la capacité à répondre à quelque chose de plus grand que soi, l'humilité en même temps. Donc c'est étonnant parce qu'il y a parfois énormément de mégalomanie dans la volonté de vouloir impacter le monde à ce point-là. Et puis il y a cet amour de l'Amérique aussi, de ce que c'est que ce pays, des pères fondateurs, de la liberté, des grandes inventions, des grandes embardées, des grands destins. Une autre chose qu'ils partagent, je pense, c'est une grande idée de la justice. Il faut faire le bien et on sera récompensé pour ça. Et je pense que l'un comme l'autre se sont fracassés sur cette cité-là. C'est peut-être la plus dure. Et la dernière, c'est le lien à l'Internet et au code. Mmh. Et le fait que l'un comme l'autre ait trouvé cette modalité comme rapport au monde.
Dans votre bio, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur votre site, vous dites « J'écris pour comprendre la fin d'un monde, l'émergence d'un autre et le travail de celles et ceux qui peut-être le feront. Je m'attaque à l'emprise de la finance et à la folie d'un monde assis sur la technologie. J'interroge notre rapport au pouvoir, l'élite en mode panique, nos consentements. » Flore Vasseur, qu'est-ce qui vous a mis en route? Enfin, quel est l'événement qui vous a mis en route?
Moi, c'est assez facile et en tout cas très visuel, c'est le 11 septembre. Donc moi, je suis française, j'ai grandi à Annecy, là, tout à côté d'ici, dans cette nature merveilleuse, entre le lac et la montagne. Je suis choyée, j'ai une famille qui m'aime, que j'aime. Je fais beaucoup de sport, enfin voilà, la vie est belle, la vie est vraiment très, 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 très belle. Et je suis pas très forte à l'école, mais je travaille beaucoup parce que je suis besogneuse et parce que, je sais pas, j'ai une espèce d'angoisse de je sais pas quoi. Enfin, on m'a donné ça, le goût du travail en tout cas. Finalement, à force de sueur et de larmes, je finis par bien travailler à l'école. Je fais une très grande école de commerce en France et puis je décide à 24 ans d'aller à New York monter ma société. Vous savez, c'est la fin des années 90, c'est la bulle Internet. Moi, j'ai été élevée et biberonnée à ces idéaux de il faut réussir, il faut créer son entreprise, il faut créer de la valeur. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont un peu en train de se retourner contre nous. Et donc, je crée mon entreprise Internet à 24 ans à New York. Et donc, j'assiste, et c'est la matière aussi de ce livre, hein, qu'est-ce qu'est devenu l'Internet. Mmh. C'était aussi un fol espoir à l'époque. J'assiste à l'éclatement de la bulle, mais surtout, j'assiste à New York, alors que je suis chef d'entreprise, que j'ai des personnes qui travaillent avec moi, que j'ai des investisseurs, que je suis en plein dans le trip capitaliste à fond, quoi. Je l'ai joué à fond de fond. J'assiste au 11 septembre. Et j'ai 27 ans. Je suis un bébé. Et moi, étonnamment, sur le toit de l'immeuble de mon bureau ce jour-là, j'ai peur, mais j'ai pas seulement peur, je ressens un sentiment de honte profonde. Je me mets à me détester profondément. Parce que ma question, c'est qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour qu'on nous envoie des bombes? À quoi est-ce que je suis en train de participer? Je sens tout de suite que je suis pas d'accord.
Pourquoi on nous aime pas?
Pourquoi on nous aime pas? Qu'est-ce qui fait? D'où viennent profondément ces bombes? Au-delà de la première lecture qui est le terrorisme. Puis on s'arrête là. Mais j'ai envie de comprendre pourquoi, en fait. Quelles sont les raisons de la colère? Et donc, bien sûr, c'est pas un plan d'action. Mais je constate maintenant, avec 18 ans de recul, que ce qui se passe, c'est que je décide d'arrêter d'être chef d'entreprise, que je décide d'arrêter de nourrir cette idée-là, que j'ai joué plein pot. Et finalement, la vie, depuis, me met sur un chemin que j'explore avec beaucoup de déconvenues, d'échecs et aussi parfois des moments de grâce qui sont les œuvres finalement qui fonctionnent, puisqu'il y en a qui fonctionnent pas, et qui fait que je tire ce fil qui consiste à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre modèle qui est fondamentalement injuste, parce que c'est clairement le sujet, et en quoi nous en sommes complices.
Donc il n'y a pas que les tours qui s'effondrent, il y a aussi votre vie qui bascule ce 11 septembre. Flore Vasseur, on célèbre cette année les 50 ans d'Internet et les 30 ans du web. Alors pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont jamais entendu parler d'Aaron Swartz, c'était d'ailleurs mon cas, je le confesse, avant de lire votre livre, dites-nous peut-être en quoi il a été pionnier. Qu'est-ce qu'il a inventé finalement avant les autres?
Alors d'abord, ne vous en voulez pas de ne pas connaître Aaron Swartz. C'est le cas d'énormément de personnes et c'est tout le plaisir d'un écrivain que d'aller mettre en lumière quelqu'un à côté duquel on est passé. Donc je suis dans mon rôle et tant mieux si vous ne le connaissiez pas, sinon ça servirait à rien que j'ai passé 4 ans sur cette histoire. Le deuxième point, c'est que Aaron, donc il naît en 86 d'une famille de grands humanistes. Derrière lui, avant lui, il y a un grand-père qui a fui l'Europe centrale, qui a fui les pogroms, donc de religion juive, persécuté, qui arrive aux États-Unis comme énormément d'immigrés de l'époque et c'est le rêve américain. Il traverse les États-Unis pour s'installer à Chicago, il fait fortune très vite et puis dès qu'il a fait fortune, il dit bah maintenant je vais sauver le monde. Et en fait, on peut pas raconter Aaron et sa vision du code si on n'a pas ça. Il naît, NIT, coiffé d'idéaux et d'une mission. Il naît dans cette grande tradition humaniste avec un grand amour des livres, de la culture, voilà, c'est un quelqu'un qui arrive avec des bagages très très sérieux. Après, donc il naît dans cette famille-là dans laquelle vit un père aussi qui s'est sauvé grâce à la technologie quelques années précédemment. Et il va lui transmettre ça également. Et Aaron, dès l'âge de 5 ans, tombe sur l'ordinateur de son père. Il lui montre ce que c'est. Et Aaron plonge dans le code et se met à coder. Pourquoi ? Parce qu'il voit dans le code, et c'est l'idéal premier du web dont en fait, vous avez raison, les 30 ans ces jours-ci, l'idée c'est de partager la connaissance, d'abolir les distances pour qu'il y ait une conversation globale et une intelligence qui se déploie. C'est pas Aaron qui invente ça, ni les inventeurs du web, c'est Teilhard de Chardin. C'est l'idée, le point oméga de l'humanité. L'idée d'un cortex mondialisé, globalisé, qui puisse donner à l'humanité la conscience, à l'univers la conscience de lui-même. Donc c'est une ambition folle. Et Aaron, il est héritier de cette tradition-là. Et donc très vite, tout ce qui code, c'est des outils pour que la parole soit libre, pour que la connaissance soit partagée de façon gratuite et absolument distribuée. Donc à l'âge de 12 ans, il invente la même chose que Wikipédia quelques mois avant. Mais c'est exactement la même idée d'une encyclopédie libre et gratuite faite par les internautes. Et son invention sera bien moins relayée que celle de Wikipédia. Et il n'en tiendra aucun ombrage puisqu'il sera l'un des plus grands contributeurs de Wikipédia jusqu'à sa mort. Il crée le flux RSS qui, si vous écoutez cette émission en podcast, n'aurait jamais existé sans cette technologie, ni d'ailleurs la plupart des médias en ligne. Il crée Reddit qui est un forum de discussion aujourd'hui monstre qui a inspiré Facebook pour le pire et le meilleur, mais qui est aujourd'hui le 6e site le plus visité au monde, avec le pari que les internautes peuvent discuter entre eux, qu'il n'y a plus besoin d'arbitre ou de journaliste pour réguler une conversation. Il crée les Creative Commons avec Larry Lessig, qui est l'idée que les créateurs, comme vous, comme moi, peuvent décider, grâce à Internet ou sur Internet, de la propriété et que les autres personnes peuvent faire de leur œuvre. Donc il est vraiment dans cette mouvance où il se dit qu'il faut inventer les outils de cette culture de l'Internet qui voudrait que tout soit libre. Et ça ne veut pas dire nécessairement gratuit, mais qu'on puisse accéder à tout le savoir de l'humanité.
Flore Vasseur, on va faire une petite escale sonore avant de poursuivre notre route américaine sur les traces d'Aaron Swartz. On va entendre sa voix, bien sûr, on va entendre quelques extraits de son manifeste de la guérilla pour un libre accès, le tout décodé et mixé par notre réalisateur Samuel Morier-Genoux.
Six-year-old Aaron Swartz
has died.
The tech prodigy has committed suicide
in his Brooklyn apartment.
He was facing criminal charges in the US accused of wire and computer fraud.
L'information, c'est le pouvoir. Mais comme pour tout pouvoir, il y a ceux qui veulent le garder pour eux.
En janvier 2013, l'informaticien, entrepreneur et activiste Aaron Swartz s'est enlevé la vie à l'âge de 26 ans seulement. Comment ce jeune prodige, déterminé à changer le monde, a-t-il pu en arriver là?
It's not enough to just live in the world as it is, to just kind of take what you're given and, you know, follow the things that adults told you to do and that, you know, your parents told you to do and that society tells you to do.
Le patrimoine culturel et scientifique mondial, publié depuis plusieurs siècles dans les livres et les revues, est de plus en plus souvent numérisé, puis verrouillé par une poignée d'entreprises privées. C'est trop cher payé.
I think you should always be questioning, you know, I take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional, that, you know, it's always open to recantation or refutation or questioning. And I think the same applies to society.
It's easy sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. So yeah, maybe sometimes you feel like you're not being listened to, but I'm here to tell you that you are. You are being listened to. You are making a difference. You can stop this bill if you don't stop fighting. Stop PIPA. Stop SOPA.
Some of the biggest internet companies, to put it frankly, would benefit from a world in which their little competitors could get censored. We can't let that happen.
Lorsque nous serons assez nombreux de par le monde, nous n'enverrons pas seulement un puissant message d'opposition à la privatisation de la connaissance. Nous ferons en sorte que cette privatisation appartienne au passé. Serez-vous des nôtres ?
Serez-vous des nôtres ? Ce sont les derniers mots, Flore Vasseur, du manifeste de la guérilla pour un libre accès d'Aaron Swartz. Alors, Flore Vasseur, ce rêve d'une communauté, hein, il est porté par un jeune homme très seul, solitaire, presque enfermé dans sa bulle. C'est ça le paradoxe de votre personnage, je le mets entre guillemets.
Vous savez, c'est ce qui est merveilleux dans tout, dès lors que vous vous intéressez aux personnes, c'est les contrastes, c'est les contradictions, c'est les clairs-obscurs. Derrière beaucoup de lumière, il y a forcément beaucoup d'ombre. Aaron, il était persuadé d'être né sur Terre pour accomplir quelque chose. Et ça le rendait intraitable sur les relations humaines. Soit une relation humaine l'aidait à progresser dans ce qu'il avait envie de faire, soit non. Il ne supportait pas une conversation bénigne ou sans intérêt. Il était incapable d'une certaine sociabilité, mais c'était une énorme souffrance pour lui de ne pouvoir pas trouver sa place dans les jeux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui a été en grande souffrance parce que longtemps incompris, longtemps mal accompagné. Alors, ça me crève le cœur de dire ce dernier mot, parce qu'en même temps, il y a eu tellement d'adultes formidables pour essayer de l'accompagner, pour essayer de l'accueillir, pour essayer de le faire grandir, pour essayer de le protéger, en fait, de ce monde, surtout, et je pense que c'est ça qui l'a tué, de ce monde qui avait choisi la médiocrité, en fait. C'est pas seulement que ce combat pour la liberté de la connaissance ou la liberté d'expression soit difficile parce que les opposants à ces intérêts-là, qui sont les multinationales, les gouvernements, soient costauds. Ce qui lui a vraiment brisé le cœur, c'est de comprendre que la plupart d'entre nous s'en fichaient. Ne voyaient pas le lien entre privatisation de la connaissance, privatisation de la parole, et démocratie, et liberté, et vie intime.
C'est pour ça que peut-être que vous écrivez « Sa mort prématurée a sonné le glas de toute une génération pour qui Internet était le nouvel Eldorado ». Donc à travers son histoire à lui, particulière, singulière, c'est aussi voilà le diagnostic d'une époque.
C'est le diagnostic d'une époque, vous avez raison, et finalement, je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai vécu, donc je dis pas que c'est que ça l'époque, mais vraiment aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion sur la technologie, sur nos vies, on peut pas faire l'impasse d'une réflexion sur Internet et démocratie, et j'aimerais bien que ça soit décorrélé, mais c'est pas possible. Il n'y a pas Internet d'un côté et la société de l'autre. On l'utilise toute la journée et la technologie est en train d'influer sur nos pensées, sur nos goûts, sur notre façon de vivre, sur qui on va aimer, sur ce qu'on va désirer. C'est plus possible de considérer qu'il y a l'économie réelle ou la vie réelle ou l'éducation et de l'autre côté l'Internet. Là, société est devenue l'Internet, l'Internet est devenu la société. Tant qu'on n'arrive pas à penser ça, eh bien on ne peut pas avoir un débat franc et ouvert sur ce qui est en train d'advenir. On ne peut plus laisser ça aux experts de l'Internet, ce n'est pas possible.
Alors on pourrait dire que, en tout cas momentanément, Facebook a gagné la partie, que l'argent a gagné la partie. Alors, le patron de Facebook, Zuckerberg, vous n'aimez pas du tout, hein, Flore Vasseur, mais du tout, hein. Vous le comparez même, en faisant référence à son audition devant cette commission du Congrès américain, à une sorte de robot humain. En fait, c'est l'anti-Aaron Swartz.
Ouais, alors, je veux juste dire que, moi, j'essaye d'être dure avec les problèmes et douce avec les personnes. Zuckerberg, c'est aujourd'hui l'incarnation de quelque chose, c'est là où il m'intéresse. Oui, j'ai trouvé cette audition absolument effrayante, tant on avait quelqu'un qui était préparé comme Mike Tyson avant d'aller sur le ring, qui était dans l'hypocrisie totale à jouer au petit garçon qui pouvait reconnaître qu'il ne savait pas répondre à des questions. C'est vraiment un foutage de gueule absolu, pardon. Et puis surtout, ce qui me surprend en tant qu'écrivain, c'est sa gestuelle. C'est l'absolue maîtrise de son visage. Il y avait comme un masque, et d'ailleurs, on peut se demander comment c'est possible, en fait. Si j'étais romancière, si j'en faisais une fiction, j'inventerais un personnage qui serait à la tête du monde et qui s'injecterait des choses dans le visage pour que son visage ne marque aucune expression, pour que jamais rien ne puisse être utilisé contre lui. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que c'est une technique d'espionnage, ça. Enfin, les grands agents, on leur apprend à totalement maîtriser leur faciès. Et c'est effrayant quand on voit ce qu'est devenu Facebook de notoriété publique. Et je suis en plein dans la contradiction, puisque j'y suis, qui est une agence de renseignement auto-nourrie. C'est le Wikipédia de l'agence de renseignement, j'ai envie de dire.
Alors c'est intéressant, il y a ce corps robotique du patron de Facebook, et puis il y a le corps d'Aaron Swartz, et ce corps, bah, il le vit plutôt mal, hein. Il le vit comme un fardeau, voilà, qu'il faut bien nourrir, et qu'il nourrit d'ailleurs très mal à coups de barres de céréales et de mie de pain. Donc on voit que se débarrasser de ce corps qui visiblement l'encombre, qu'il fait souffrir, qui ne lui apporte aucun plaisir, ça raconte évidemment quelque chose. C'est comme une espèce d'utopie triste ou malheureuse, je dirais, mortifère d'une génération happée par l'écran.
Et c'est extraordinaire ce lien que vous êtes en train de faire, je ne l'avais vraiment pas fait, mais c'est vrai que c'est comme si ces grands créateurs de l'Internet, j'ai dit ce que je pensais de Zuckerberg, n'empêche qu'il a inventé quelque chose de fou. Donc regardons juste la capacité intellectuelle et la préscience. C'est vrai que le point dénominateur commun, c'est que le corps est quelque chose qui permet de transporter le cerveau. En fait, et que il peut être quelque chose qui trahit, il peut être quelque chose qui abîme, il peut être quelque chose qui ralentit. Et donc, il y a une déconnexion corps-cerveau assez importante. Alors, sur Zuckerberg, j'ai pris, et vous m'avez aidé à faire cette métaphore, le cas de son audience. Mais sur Aaron, c'est vrai que lui, il a quelque chose qu'il torpille de l'intérieur. Il a une auto-persécution, qui est une forme de la maladie de Crohn, qu'il découvre à 12 ans, et qui le torpille de l'intérieur, et qui vient frapper de façon totalement insidieuse, sans prévenir. Il n'y a pas de traitement vraiment, il faut qu'il se méfie de tout. Donc il devient un espèce de paranoïaque de tout ce qu'il doit avaler. C'est terrible parce que le corps, c'est aussi ce qui signifie qu'on est en vie, ce qui signifie qu'on est présent, ce qui est susceptible de donner du plaisir, de la joie. Voire, moi personnellement, quand je vais mal, je m'en remets à mon corps et il me relance, je vais courir, je fais quelque chose qui fait que mon cerveau déconnecte. Et Aaron n'aura pas ça. Et c'est terrible parce que c'est comme s'il y avait une défaillance dans la fusée, en fait. Vous savez, c'est comme cette fusée qui s'est crachée après une minute de vol. Il y avait un truc à l'intérieur, un petit truc qui a fait que ça pouvait pas aller loin.
Un défaut de code, quoi.
Un défaut de code. C'est terrible parce qu'effectivement, je pense qu'il a manqué deux choses à Aaron pour tenir. C'est un rapport au corps apaisé, qui ne venait pas renchérir sur l'idée que la vie était difficile et que l'adversité était là. Et la deuxième chose qui lui a manqué, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment cru dans le fait qu'il pouvait écrire un roman. C'est quelqu'un qui écrivait énormément, des blogs, et qui avait une conscience politique énorme, vous l'avez compris, et qui du coup la nourrissait et l'entretenait en écrivant. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas comme si on savait tout de suite ce qu'on allait dire. Il faut l'écrire, il faut le tester, il faut le raboter, il faut le sculpter. Et Aaron a essayé 1000 fois d'écrire un grand roman, il était fou de littérature, et il a baissé les bras. Et je suis persuadée que s'il avait réussi à aller au bout d'un livre, il aurait tenu.
Alors c'est très intéressant parce que bon, pour lui, cette langue, cette écriture nouvelle, ça va être justement le fait de coder. Alors pour nous, pour le simple des mortels, c'est le codage. Bon, on voit, on comprend pas très bien d'ailleurs ce que c'est, mais on voit que c'est quelque chose de très austère, hein, avec des alignements de lettres, de chiffres, de symboles qui nous sont incompréhensibles. Pourtant, lorsque son père, donc qui l'initie au codage, lui parle, il va lui parler d'un code parfait, d'un code exquis, presque comme un poème. Donc bizarrement, c'est aussi une clé pour comprendre le fils.
Absolument. Bah, vous savez, il y a cette idée que la poésie serait un code extraterrestre pour comprendre la vie. Voilà, il y a des espèces de fulgurances d'associations, d'idées tellement parfaites, éblouissantes, qu'en un minimum de mots, vous racontez quelque chose d'une puissance folle. Et le code informatique, c'est le langage des machines. C'est le langage pour que la machine puisse exécuter votre ordre. Donc, à partir du moment où vous avez passé la barre qui consiste à croire que le langage humain est le seul langage possible, pourquoi pas imaginer qu'un code parfait, c'est un langage parfait, c'est un poème. Et c'est vrai que l'acharnement, enfin le grand travail des codeurs, c'est d'arriver à la ligne de code parfaite.
C'est un petit peu comme les mathématiciens, pour qui il y a une équation qui s'extasie devant la beauté d'une équation.
Mais vous savez, tout est code. Les mathématiques est code. La poésie est code, le langage est code, le code informatique, le langage informatique est code, la société est code, la constitution est code. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'aller dans l'exégèse parfaite de ce code-là pour que le rendu soit le plus beau possible, ou le plus efficace possible, ou le plus partagé possible. Mais il y a toujours cette idée, moi ça m'a beaucoup étonnée, mais entre finalement un codeur et un écrivain, il y a cet outil qu'est le langage, alors c'est pas le même. Il y a des décodeurs. Et il y a l'idée d'arriver à l'histoire parfaite.
Alors c'est son père donc qui lui inocule le virus du codage, mais très vite le fils va être en quête d'autres pères, de pères spirituels, de pères en informatique, je sais, ou de pères en codage. Donc cette question du père, elle est aussi récurrente dans l'enquête que vous menez, Florence.
Alors, je sais pas si c'est pour Aaron ou pour moi, je pense qu'on est toujours en train de chercher ses pères, P-E-R-E-S, et pères, P-A-I-R-S. Aaron a 12 ans, il a une conscience de ce qu'est l'Internet qui est peu perçue par les adultes. En fait, qui est peu partagé par des adultes. Il est vraiment un pionnier de l'Internet, dans le sens où il a tout de suite la vision de ce que ça peut faire à l'humanité. C'est pas l'histoire des start-up et des start-up nation et des millions, etc. C'est pas cette histoire-là. C'est l'enjeu sociétal et politique. L'évolution humaine, le progrès, avec un grand P. ce qui est pas ce qu'il est devenu. Et en fait, très vite, sa famille, bien que brillante, son père, bien que câblé comme lui, j'ai envie de dire, ne comprend plus son fils. Mais c'est pas seulement son père, c'est aussi ses professeurs à l'école. Il bouscule tout le monde, il fracasse tout le monde, il est enquiquinant, il est arrogant, il a des questions qui sont pas de son âge, il a des réflexions qui sont pas de son âge, il a des envies qui sont pas de son âge. Et donc, Aaron, il va se mettre en recherche de ses pairs, et le premier qu'il veut absolument voir, il en fait une obsession, c'est Tim Berners-Lee.
Et donc l'inventeur du web.
L'inventeur du
ou
web.
Le co-inventeur du
et
web.
Et il lui écrit directement, et il fait des pieds et des mains pour le voir, et il y a au moins deux ou trois rendez-vous manqués, et il faut qu'Aaron, derrière son ordinateur, se cache et s'immisce dans les groupes de travail du MIT où Tim Berners-Lee travaille, pour qu'il puisse participer à les discussions, effacer derrière son ordinateur, contribuer et qu'on lui ouvre la porte. Donc son corps, parce qu'en plus à 12 ans, il doit faire 1m40, il doit avoir le physique d'un enfant de 8 ans. Son corps est un problème. Il y a ce qu'il y a dans sa tête, il y a son corps qui ne le torpille pas encore, mais qui le retient dans l'enfance, dans la matière, alors qu'il a qu'une envie, c'est décoller.
Il y a aussi au cœur de cette enquête, Flore Vasseur, c'est la question de l'argent. Alors aujourd'hui, bon, Internet aux mains des puissances de l'argent, les GAFA, qui sont sans doute les entreprises les plus puissantes qui n'ont jamais existé. Et on voit à quel point c'est difficile pour les États de tout simplement les taxer. Pour Aaron Schwartz, cette question de l'argent, elle aura été la question maudite.
Oui, alors je pense qu'elle est maudite pour tout le monde, très honnêtement. Surtout aux États-Unis où tout est argent. Tout. L'éducation est devenue argent, la santé est argent, la création est argent, tout est argent. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Si vous voulez avancer, il faut que vous tombiez dans le système marchand. Il n'y a aucune manière de faire autrement. Aaron, bon, il naît dans une famille qui a des moyens. C'est une famille classe moyenne supérieure. La question de l'argent est présente parce que le père est entrepreneur, il n'y arrive pas. Mais c'est pas une famille qui vit dans le besoin.
Mais sauf que lui, il va devenir quand même millionnaire à 19 ans.
C'est ça. Et donc, Aaron, à 14 ans, il est propulsé au cœur des pionniers de l'Internet. Il est baladé de conférences à partir de ce moment-là en conférences internationales où, en fait, le milieu de l'Internet voit dans cette figure de Lilliputien qui débarque de nulle part avec ses idées fabuleuses un espèce de prophète de ce que peut devenir l'Internet. Il incarne la prophétie de l'Internet, qui veut dire que n'importe qui, de n'importe où, peut sortir du bois avec des idées géniales. Ça incarne aussi ce que le rêve des pères fondateurs. Donc ils sont tout contents de l'avoir et ils l'adorent, il est choyé, il est aimé. Et effectivement, à 19 ans, il contribue à la création de cette entreprise qui s'appelle Reddit. Encore une fois, c'est le sixième plus gros site au monde aujourd'hui. Et il travaille un an et demi avec ses deux autres fondateurs et ils le revendent à Condé Nast. Et il touche quelques millions, suffisamment pour pouvoir se dire qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun compromis possible. Il ne va faire que travailler pour ses idées. Ce qui, aux États-Unis, est absolument exceptionnel.
Et vous dites aussi, sa fortune précoce a altéré son jugement et la ficelle de ses avocats.
Bien sûr, parce qu'il tombe dans ce procès kafkaïen, dans cette chasse aux sorcières déclenchée par le gouvernement d'Obama contre tous les hackers et dont il fait les frais. Et comme il a quelques millions en banque, il se dit qu'il va pouvoir se défendre. Il se dit qu'il va avoir les moyens de s'offrir des avocats pour faire passer son cas et défendre son idée qui est que la justice, ça sert à quelque chose, qu'il est du bon côté de l'histoire, qu'il n'a rien volé, qu'il n'a rien dérobé, qu'il n'a pas fait d'argent sur etc. Donc j'ai cette idée, c'est mon interprétation, hein, peut-être qu'elle est fausse, que s'il n'avait pas eu cette marge de manœuvre-là, il aurait été sommé de négocier parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de se défendre.
Alors on va reparler évidemment de son procès. Vous citez en exergue du livre cette phrase de lui, « Nous avons grandi maintenant, reste à savoir ce que cela veut dire ». Alors ça fait écho à un questionnement, à une autre phrase que vous citez, c'est une phrase de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, lui aussi suicidé, fauché en pleine jeunesse.
À 27 ans.
Ouais, à 27 ans. Le devoir de cette génération sera d'abattre la corruption. Ces deux phrases qu'on va laisser en suspens, le temps d'une chanson de Nirvana.
Spoken walls and well on the of David Bowie's song.
Flore Vasseur, il y a quelques points communs, bien sûr, entre le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, et Aaron Swartz. Deux comètes, deux étoiles filantes qui se sont suicidées dans la fleur de l'âge, 26 ans, 27 ans, deux tragédies personnelles et deux emblèmes générationnels.
Oui, absolument. Alors, je suis pas sûre qu'il, je sais pas s'il aimait cette musique-là. C'était vraiment contemporain de cette histoire, en tout cas, et de son histoire. Mais oui, il y a cette idée, et c'est pas les seuls, hein. Combien de grands génies avons-nous perdu à 26 ou 27 ans? Combien de comètes avons-nous laissé filer? Mais il y a bien sûr ces parallèles de ne pas comprendre la société dans laquelle on est, de ne pas comprendre les choix de société qui sont la médiocrité, la bêtise, le rapport à l'argent, l'ultra-obsession de l'argent que dénonçait aussi beaucoup Cobain. Donc oui, il y a ce mal-être et ce truchement des idéaux de l'Amérique qui sont communs aux deux, oui.
Alors cette Amérique que vous aimez, hein, Flore Vasseur, c'est vrai qu'elle est férocement paradoxale, hein. C'est à la fois cette incroyable machine à rêves et puis une implacable machine à broyer les rêveurs. C'est les deux.
C'est les deux. Alors peut-être que ça a toujours été le cas. En tout cas là, c'est de toute façon devenu tellement visible que c'en est presque gênant. Mais oui, moi j'ai grandi dans l'idée que l'Amérique c'était le bien. Vous savez, dans ma famille, mon père me racontait toujours que dans son village de Lorraine, les GI avaient débarqué, qu'ils avaient arrêté les bombes, qu'il avait 2 ans, que c'était la première fois qu'il voyait sa maman sourire, qu'il avait eu des chewing-gums et des bonbons, que le soldat en question avait été adorable avec lui, il lui avait sculpté des chars en bois, que c'était la tendresse, que c'était les cigarettes, que c'était la musique, le jazz, les Andrew Sisters, tout ça. Enfin voilà, toute cette mes parents, cette génération née pendant ou juste après la guerre, a été élevée dans, je pense, dans le la sublimation, enfin c'était les sauveurs quoi, on doit tout à l'Amérique. J'y ai cru dur comme fer moi. Et encore une fois, je suis née à Annecy, juste à côté d'ici. La première chose que je voulais faire à 14 ans, c'était partir aux États-Unis. C'était aller voir ce grand pays où tout le monde était libre, alors qu'on est quand même vraiment bien libre à Annecy, il n'y a rien à dire. Mais il y avait ce truc, et puis c'est aussi, vous savez, tout ce qu'on a vendu après-guerre et qui a fait une énorme machine économique de la matérialité, il fallait les voitures, il fallait la machine à laver, il fallait tout ça. Et l'American way of life, voilà. Et moi, je suis une enfant de ça. Et donc je l'aime cette Amérique parce que c'est ancré dans mes cellules. C'est vrai qu'il y a un GI qui est un jour débarqué dans le village de mon père et qui lui a fait des... Et c'est vrai que ça l'a sauvé et c'est vrai que ça lui a mis de la joie pour la première fois dans sa vie. Et c'est vrai que c'était important pour lui. Mais c'est vrai aussi que c'était pas seulement ça l'histoire. C'est vrai qu'il y avait aussi pas loin des Russes qui avaient énormément aidé et qu'on a jeté comme des moins que rien et qu'on n'a jamais considéré comme des personnes qui nous avaient aidés et qu'on s'est coupé d'eux. C'est vrai que l'Amérique c'était pas seulement ça. C'est vrai qu'avec tous ces biens et cette matérialité est arrivée aussi une catastrophe planétaire qui nous explose à la figure aujourd'hui. C'est vrai qu'on a été endormis, asphyxiés, aliénés par cette idée-là. Jusqu'au point culminant finalement, et là c'est là où le rêve pour moi se déchire, c'est Obama. Obama, brocardé partout, comme regardez ce que l'Amérique est capable de faire, un homme noir venu quasiment tout seul, capable de battre les Clinton et les Biden, etc., avec des idées fabuleuses, un homme d'une élégance incroyable, et il l'est. Mais le dessous des cartes, c'est que c'était aussi quelqu'un capable d'attaquer quelqu'un comme Aaron Swartz.
Alors on va y venir, mais peut-être restons un instant puisqu'on a parlé des GIs, voilà, de cette Amérique un peu héroïque aussi, sur cette notion de héros qui a évidemment évolué au fil du temps, hein, depuis les héros antiques qui se distinguaient par leur naissance divine, par leur qualité extraordinaire ou leurs actes. Il y a les héros ensuite romanesques depuis le Moyen-Âge, il y a les anti-héros de notre modernité. Aaron Swartz, il rentre dans une de ces catégories pour vous?
Alors oui, je crois que c'est Jason. C'est Jason qui part à l'aventure sur la première esquife jamais créée pour faire autre chose que la guerre et qui part à l'aventure à la recherche de la toison d'or, qui est rien qu'une idée dont on ne sait même pas à quoi vraiment elle sert. si ce n'est à lui promettre je ne sais plus exactement quel trône, et qui part comme ça, et qui, parce qu'il est parti, parce qu'il a quitté le port, parce qu'il est parti à l'aventure, pour une idée plus grande que lui, fait un merveilleux voyage, rencontre l'amour, est trahi, manque de mourir, et arrive à revenir jusqu'à chez lui. La raison pour laquelle Aaron n'arrive pas à revenir jusqu'à chez lui, et c'est le parallèle avec Jason. Jason est sauvé parce que, vous savez, son bateau à un moment est en rade dans un désert qu'il a confondu avec de l'eau. Donc c'est un espèce de marais salant qui est entre la Libye et la Tunisie. Et il tombe et il n'y a plus de vent, le soleil tape comme pas permis, et il reste 12 jours là à attendre la mort avec Médée, avec tous ses compagnons. Et ils sont en train de mourir sur place, et l'espoir est terminé. Vous savez, c'est comme ces effondrements qu'on peut vivre, où il n'y a plus d'espoir. Et à un moment, une nuit, une muse vient le voir. Et c'est un cheval blanc qui lui dit « va dans cette direction et prends ton bateau sur le dos ». Et le lendemain, il convainc tout le monde et ils prennent le bateau sur le dos, il suit le cheval ou la direction que le cheval a indiquée, et il retrouve l'eau, et là il y a le vent, etc. Et ça, c'est ce qui a manqué à Aaron. Et c'était quoi son esquif? C'était quoi son bateau? C'était l'écriture. Et c'était, vous savez, cette capacité à écouter les muses, à s'en remettre parfois à cette petite voix dans la nuit qui vient vers 4-5 heures du matin et qui vous glisse une phrase incompréhensible, un code, et qui le lendemain, décodé, vous donne une direction. Voilà, c'est ça qui lui a manqué. Donc voilà, c'était ce héros grec-là.
Alors cette ascension irrésistible d'Aaron Swartz, elle va se terminer de façon aussi inattendue que brutale. Alors tout part d'un vol de données.
Alors tout part plus exactement de cette idée que la connaissance doit être libre. Avant cette aspiration de données, ce téléchargement maladroit de données, Aaron, dès 2008, se politise complètement. Moi, il m'a changé. Effectivement, le 11 septembre m'a transformé, mais je suis pas la seule. Il y a beaucoup, beaucoup de gens pour lesquels la trajectoire de vie bifurque le 11 septembre. Et pour Aaron, qui a 14 ans à l'époque aussi. À 18 ans ou 19 ans, il écrit un texte qui s'appelle le guérilla pour la
libre accès.
Pour le libre accès à la connaissance, merci beaucoup, qui en fait est un manifeste politique qui encourage tous les universitaires et les professeurs à partager la connaissance sur un principe simple qui est que l'accès à la connaissance est inégalitaire dans le monde. Il y a d'un côté les très grandes universités qui peuvent se payer l'accès à toutes les recherches académiques et de l'autre côté les autres universités ou les personnes isolées qui ne peuvent pas y avoir accès. Pourquoi ? Parce que la connaissance et la recherche qui est souvent financée par deniers publics a été préemptée par des éditeurs, des acteurs privés qui en font un business. Et Aaron est viscéralement contre cette idée. Pas sur l'idée que les gens ont le droit de gagner de l'argent, c'est pas le sujet. Mais qu'on ne fait pas ça avec de la connaissance, puisque la connaissance, c'est le bien-être de l'humanité, c'est un commun. Et donc, au MIT, qui est Massachusetts Institute of Technology, qui est le temple de la connaissance, de la recherche académique, mais aussi du piratage. Vous savez, quand vous allez dans les bâtiments du MIT aujourd'hui, vous avez des panneaux entiers qui vous expliquent pourquoi le hack, c'est bien. Après, il vous donne quelques règles, n'endommagez rien, rendez tout, signalez les erreurs, signalez les vulnérabilités, etc. Mais la culture du piratage, du hack plus exactement, est consubstantielle au MIT. Donc Aaron est au MIT, qui est le paradis de son grand-père, le paradis de son père, le paradis de ses frères, le paradis de ses pères PAIRS. Larry Lessig, on n'en a pas parlé, Noam Chomsky qui le vénère, et Tim Berners-Lee qui enseigne et qui fait de la recherche là-bas et qui a tous ses chercheurs avec lui. Donc il est à la maison, dans cette université qui n'a fait autre chose que de pousser la recherche scientifique au plus en point.
Donc il va voler le pot de confiture dans la maison, quoi.
Il y vole même pas, parce que le pot de confiture, je pense que c'est vraiment les documents classés secret défense du Pentagone, etc. Il télécharge sur les serveurs en accès libre du MIT la base de données de G-Store, qui est un très grand éditeur de publications académiques, et il télécharge 4,8 millions de documents sur des disques durs. Et il n'en fait rien. Rien. Pourquoi, comment, quelle était son intention, on n'en sait rien. Toujours est-il que le FBI le voit, l'attrape, l'arrête comme une bête et que le cas démarre. Sauf que G-Store...
Juste, je vous arrête parce que c'est vrai que le seul petit problème, c'est qu'il est filmé, évidemment, quand il va télécharger ses données, il est filmé par des caméras de surveillance dans ce local du MIT. Et ce qui est troublant, ce qui est quand même un peu dingue, c'est de se dire qu'un type voilà, aussi brillant, aussi génial... passe à côté, oublie comme ça le fait qu'il puisse quand même y avoir des caméras de surveillance dans un local qui est bourré de serveurs informatiques au MIT.
Oui, alors vous savez, le MIT c'est très particulier parce que au MIT il y a des concours même de compétition chaque année où vous devez pénétrer ces salles de serveurs. Elles d'ailleurs elles sont même pas fermées. Hein. Vous devez trouver, c'est une compétition entre nerds, c'est des fous d'informatique et donc ils se font des espèces de courses d'orientation à l'intérieur du MIT pour rentrer dans ces trucs-là. Donc,
oui, mais là, pour le coup, c'est une espèce d'acte manqué parfaitement réussi, quoi.
Bah, là, alors, effectivement, est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que c'est suicidaire? Est-ce qu'il a envie de faire un énorme bras d'honneur? En tout cas, il est clairement pas, il pense certainement pas aux implications à l'époque. Surtout que quelques années auparavant, il a fait quelque chose de similaire. 2 ans après, même. Il a fait quelque chose de similaire qui a été, où il y a eu un cas assez célèbre de justice. Et dans ce cas-là, le juge a remercié Aaron Swartz en lui disant « Vous avez bien fait et vous avez permis de mettre à jour par votre acte une violation de la vie privée pour telle et telle raison. » Il fait la une du New York Times Business pour ce cas. Donc il est remercié, il est félicité et la presse l'applaudit. 2 ans plus tard, il fait la même chose sur des publications académiques. Et là, le filet tombe et la machine se met en branle.
Alors, pourquoi la machine se met en branle?
Alors, moi, je pense qu'en 2 ans, le contexte a évolué énormément. Et je pense que c'est ça l'erreur d'Aaron, c'est qu'il n'a pas vu ça. Ce qui a énormément évolué en 2 ans, c'est qu'il y a une entité qui est sortie du bois qui s'appelle Wikileaks et Julian Assange, qui horrifie le gouvernement américain. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'est 2010, 2011, 2012, c'est les câbles diplomatiques que Chelsea Manning, à l'époque Bradley Manning, a fait fuiter vers Wikileaks, qui révèlent les dessous des cartes de la diplomatie américaine. Et vous vous souvenez tous, je crois que c'est la chose la plus visuelle qu'on ait tous vue, c'est ce petit film révélé par Wikileaks de l'hélicoptère Apache qui tire à bout portant sur des civils irakiens. Sans défense. Et ça, c'est ça qu'on découvre de l'Amérique. Et alors, à ce moment-là, le gouvernement d'Obama, qui quand même a fait tout son, et qui tient tout son peuple, finalement, par son image aussi, et sa story de grande liberté, de progressisme, etc., est terrifié par ça. Terrifié par ce que peut faire Wikileaks. Et donc, toutes les personnes qui sont susceptibles de bien maîtriser la technologie, voire de mieux maîtriser la technologie que les propres employés du gouvernement américain, sont surveillé, harassé, intimidé. Tout le monde à l'époque cherche la taupe de Wikileaks, les soutiens de Wikileaks. Et Aaron est associé à son corps défendant, à cette mouvance. C'est pas son cas. Lui, il s'embête pas à aller dérober des secrets classés défense. Il sait très bien que ça va nulle part. Lui, ce qu'il veut, c'est libérer la connaissance. Il s'intéresse pas au gouvernement, il s'intéresse aux gens, au peuple, aux citoyens. C'est eux qu'il veut mobiliser. Il attaque pas frontalement le gouvernement. Il va chercher. Ce qu'il voulait, c'est donner aux gens les outils de leur émancipation.
Alors, Flore Vassor, aux États-Unis, l'innocence comme la culpabilité se négocient avec la justice, donc à coup de dollars. Quel est le deal, quel est le marché que la justice américaine va lui proposer alors et qu'il ne pourra pas accepter?
Vous avez raison, aux États-Unis, moi j'ai trouvé ce chiffre qui me paraît fou, mais je crois que 80% des cas ne sont jamais jugés parce que ça fait l'objet d'une négociation dans le bureau du procureur. Ça arrange tout le monde parce que les avocats font monter les enchères et sont très très bien payés. Ça désengorge les tribunaux et ça permet aux vrais criminels en col blanc de ne pas voir leurs secrets répandus sur la place publique. Donc la technique de la négociation, le plea bargain, est quelque chose de tout à fait usuel et c'est un business. Donc la première demande, la première proposition, c'est un plea bargain. La procureure fait savoir à Aaron qu'elle est prête à négocier et que s'il accepte de reconnaître sa culpabilité, elle lui fait une peine en 3-3, 3 mois de prison, 3 mois surveillés et 3 mois de sursis. Sauf que Aaron, à ce moment-là, est dans une situation particulière. D'abord, la personne, l'entité qui l'aurait lésée, G-Store, a retiré sa plainte. A dit, il n'y a pas d'histoire, je n'attaque pas Aaron Swartz, pour moi, il n'y a pas de cas. Et donc, c'est l'État américain qui attaque en son nom propre Aaron Swartz. Et là, il se dit, je dois montrer que mon acte est juste, je suis dans le bon côté de l'histoire, cette histoire de liberté d'accès à la connaissance est importante. On va faire l'histoire avec ce cas. Donc, il est d'abord dans ce truc-là. L'autre chose, c'est que le procureur a une carte, qui est la dame de cœur. C'est la petite amie d'Aaron. et ils s'adorent. Et ils viennent de se quitter. Ils sont dans une tempête. Vous savez, ces premiers amours là, dont on se remet jamais, quoi. On ferait tout pour eux. Bon, voilà, il est là-dedans. Et la grande amoureuse qu'elle est et le grand amoureux qu'il est se disent ensemble, on va gagner ce cas. N'accepte pas cette négociation. On va aller en justice. On sera fort. On y arrivera. Et c'est sa deuxième erreur.
Voilà, une deuxième erreur tragique, enfin un engrenage tragique qui se clôt donc par son suicide à 26 ans. Alors vous posez la question, suicide ou suicidé, donc ça veut dire quoi? Que pour vous, il subsiste des zones d'ombre?
Vous savez, aujourd'hui on veut supprimer quelqu'un, on le tue plus directement. On abîme sa réputation, on l'empêche de travailler, on l'accule à la dépression, on le transforme en nobody. Et je suis sûre que la persécution dont il a fait l'épreuve l'a conduit à son acte. Donc oui, il a été suicidé. Oui, la procureure et surtout son assistant savait très bien, elle avait 50 rapports sur les tendances dépressives d'Aaron Swartz. Elle le savait. Donc ils ont appuyé là, parce que le plea bargain dont on parlait 3 mois, ça s'est transformé parce qu'Aaron a tenu tête en promesse de 35 ans de prison. Ferme. $1 million d'amende, un casier judiciaire à vie, ce qui pour Aaron était terrible parce qu'en fait, son point, c'était de devenir un homme politique, en fait. Il se voyait même président. Donc, un casier judiciaire à vie, 35 ans de prison, $1 million d'amende et l'interdiction de toucher un ordinateur pendant toute sa vie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez dire de pire à quelqu'un pour lequel l'accès à un ordinateur, c'est de l'oxygène? Donc, oui, il s'est suicidé. Qui a tendu la corde? C'est plus compliqué que ça.
On célèbre cette année, on l'a dit, les 30 ans du web. Son inventeur ou co-inventeur Tim Berners-Lee a annoncé qu'il allait désormais se consacrer sur l'évolution du web pour rétablir, dit-il, l'équilibre en donnant à chacun le contrôle des données personnelles ou non, de manière révolutionnaire. Vous y croyez encore?
Bon, en tout cas, s'il y en a un qui peut le faire, c'est lui. Peu importe que j'y crois ou que j'y crois pas, la question c'est, on doit tout essayer. On est dans un tel engrenage, on n'a pas le droit, quand on maîtrise un peu la technologie, alors lui, c'est même pas un peu, c'est lui qui l'a faite, mais on n'a pas le droit, quand on est à ce niveau de responsabilité, de baisser les bras. Vous savez, il y a une histoire terrible dans la relation entre Tim Berners-Lee et Aaron Swartz. C'est que le premier message email qu'envoie Aaron à Tim Berners-Lee, c'est deux mots. Any regrets? Est-ce que vous avez le moindre regret? Aaron a 14 ans. Personne ne le connaît. C'est un gamin de Chicago, de la banlieue de Chicago, qui écrit au père fondateur du web. Ce monsieur passe complètement à côté, on ne peut pas lui en vouloir. Et il répond d'une boutade, qui est une ligne de Sinatra, de My Way. Regrets, I have a few, but too much to mention, ou quelque chose comme ça. Il répond d'une boutade. Je suis persuadée que la question d'Aaron le hante. Et je suis persuadée que s'il fait cet effort-là dont vous parlez, qui s'appelle Solid, c'est en mémoire d'Aaron.
Aaron Swartz représente, écrivez-vous, tout ce que j'ai aimé, l'Amérique, la dignité, l'idéalisme. Alors cet idéalisme, il n'est pas mort. Tout à fait. Flore Vasseur, vous consacrez les dernières pages de votre livre à cette très grande manifestation de la jeunesse américaine contre les armes à feu. C'est en mars dernier, après le énième massacre de collégiens par un collégien. Et à propos de cette manif, vous écrivez « Aaron aurait adoré, il est né 15 ans trop tôt ». C'est ça le destin d'un héros? Né trop tôt, avoir une longueur d'avance?
Le destin d'un héros, et c'est là je reprendrai une phrase de Edward Snowden. Le destin, le boulot d'un héros, c'est de poser sa brique quelque part pour que quelqu'un d'autre arrive derrière et pose sa brique par au-dessus. C'est d'emporter la conversation à un point où on peut plus retourner en arrière. Et c'est ça le destin d'un héros, en fait. C'est ça l'acte. C'est pas de sauver le monde. Personne le fera individuellement. Si on est dans cette histoire, dans cet objectif-là à titre individuel, ou dans l'attente de quelqu'un qui va le faire, alors je pense que la route est longue et semée de désillusions et de désespoir. Par contre, si on considère qu'il y a une courbe d'apprentissage à l'œuvre, et que le travail de tout un chacun, c'est de la nourrir, c'est de faire en sorte qu'elle s'accélère, c'est de faire en sorte de l'accueillir, c'est de la reconnaître et de l'identifier chez les gens autour de nous, alors tout change. Et oui, donc vous avez raison, je finis ce livre avec cette manifestation hallucinante de March for Our Lives. Et il y en a déjà d'autres derrière qui poussent la discussion encore plus loin. Et moi, j'adore cette émulation-là. Donc, l'idéalisme pour l'idéalisme est sans intérêt. L'idéalisme qui nous connecte aux autres, ah bah, c'est une vraie source de vraie connexion, autre chose que les écrans quand même. C'est vraiment la vie, l'intime, les valeurs, l'énorme joie d'être en vie, en fait.
Merci Fleur Vasseur, je crois que vous avez bien communiqué cette joie d'être en vie et d'être connectés réellement les uns aux autres. Et puis je rappelle le titre du livre que vous publiez, « Ce qu'il reste de nos rêves », paru aux éditions Les Équateurs. Un grand merci,
merci à vous.
À vous et puis bonne route en Amérique et partout ailleurs.
Merci.
Et on se quitte en musique avec Bombay, cet extrait de Lamberena. Recevions Fleur Vasseur pour son livre « Ce qu'il reste de nos rêves ». Un grand merci à l'équipe de Sous les pavés, Quentin Kelvenek était à la prise de son à Genève, Samuel Morier-Genoux signe la réalisation et la carte sonore, et puis Nicole Corpato est notre précieuse attachée de production. La semaine prochaine, c'est Annick Chouin qui prendra le relais à ce micro. Elle recevra Gilles Silberstein qui publie « L'île où les morts implorent », chronique d'un désastre annoncé.
Tel quel. Quel tel. Guillaume Tell, le mythe fondateur de la Suisse. Grétry, Rossini, Liszt, Eisler, ils sont nombreux ceux qui chantent Guillaume Tell. Guillaume Tell, c'est dans Poussière d'étoiles, lundi 18 mars à 22h40 sur Espace 2.
Après les informations, retrouvez Jazz avec Yvan Hicher. Espace 2, il est 18h.
Thank you.